Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission sport, temps additionnel. Aujourd'hui au menu, le rugby avec la Champions Cup et les 6 nations féminins, du foot aussi avec la Ligue des Champions et la Ligue 1. Nous irons aussi au Bayern pour débriefer le Grand Prix de Formule 1. Le tournoi de Monte Carlo aussi a donné son vainqueur ce week-end. L'épreuve mythique de Paris-Roubaix a aussi lieu cette semaine. On retournera sur les résultats de cette mythique épreuve de cyclisme. Puis nous terminerons bien évidemment sur des nouvelles de nos handballeurs du Phoenix. Pour m'accompagner dans cette revue de l'actualité sportive, Maëlan sera dans le studio. Bonjour Maëlan.
Bonjour Raphaël.
Est-ce que tu es prête pour l'émission d'aujourd'hui?
J'attends que ça.
Eh bien c'est parti. Première rubrique de cette émission, c'est bien évidemment la victoire du Stade Toulousain face aux Toulonnais à Mayol. Que ce fut dur pour les Toulousains, menés encore une fois à la mi-temps 12 à 6. Mais c'est avec une détermination sans égale que les Toulousains ont réussi à renverser la rencontre, notamment grâce à des essais de Jack Willis, de Pita Aki et de la transformation salvatrice, on l'a vu, de Thomas Ramos à la dernière minute, face à une défense exceptionnelle des Toulonnais, sur les mêlées, sur les plaquages et sur les touches. Les Toulousains n'ont pas gagné beaucoup de touches, c'est ça qui m'a fait peur. Maëlan, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Alors moi déjà, je tiens à dire que Melvin Jaminet m'a impressionné, hein. L'ex-Toulousain, il faut s'en rappeler. Il a montré son talent au jeu du pied, c'était précis, il y a eu des pénalités. Non, sincèrement, c'est à noter. En plus, il a quand même eu deux pénalités énormes à plus de 50 mètres, c'est transformé. Sincèrement, très beau match de sa part. Une petite désillusion de la part de Ramos, ça a été très dur. Heureusement, à la 82e, il transforme cette pénalité. Mais ce fut dur, hein. Ça a fait mal et ils se sont battus sur chaque mètre du terrain. Mais heureusement, ils passent et contre l'UBB, contre Bordeaux-Bègles, ça va être compliqué, je pense. Mais c'est peut-être un avant-goût de finale de top 14. Donc je pense que tout le monde a hâte et on a vu que les places se sont arrachées cette semaine. Donc tout le monde a impatience.
C'est vrai que les Toulousains ont beaucoup de mal, hein. C'est comme la rencontre face aux Sharks la semaine dernière. Ils perdaient déjà à la mi-temps. Donc c'est un scénario qu'on a un peu revu. Mais il n'y a pas eu cette envolée des Toulousains en seconde mi-temps, c'est juste vraiment Thomas Ramos qui a décidé de... Ça y est, il s'est dit bon, ça, j'ai assez raté, je vais faire passer Toulouse devant. D'ailleurs, il a fondu en larmes après le,
Ça fait
le
mal,
point
hein.
Marqué, après le point marqué, parce qu'il n'a pas l'habitude de ces contre-performances, on va dire. Donc c'est pas quelqu'un qui fait du 3 sur 6 aux pénalités d'habitude. Mais bon, Toulouse passe. La prochaine rencontre sera dans 3 semaines, donc face à l'UBB, comme tu l'as dit, un avant-goût de la rencontre de finale de top 14 qui pourra se jouer à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les Toulousains face à l'UBB?
De pas craquer et de pas perdre espoir dès la première mi-temps. Il faut y croire jusqu'au bout, là, comme ils ont fait, même si ce fut dur pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais aussi pour les supporters. Et les supporters, ils ont été derrière eux jusqu'au bout. Donc il faut qu'ils tiennent ce qu'ils ont montré, leur mental. Ils ont une maîtrise mentale impressionnante, nos rouges et noirs. Donc il faut y croire jusqu'au bout. Et on peut voir jusqu'à la 82e minute, le match peut être renversé. Il n'y a même pas besoin de prolongation. Donc il faut qu'ils se fassent confiance jusqu'au bout.
Les 6 nations féminines désormais, la France est en route pour tenter de remporter leur 4e titre, après notamment celui de 2018. C'est le dernier en date donc pour les féminines de l'équipe de France. Une victoire 42 à 12 face au Pays de Galles et son voisin donc anglais fait de même avec une victoire 49 à 5 sur l'Irlande. Les deux premiers Angleterre-France qui se tiennent à un point, Maëlan.
Les Bleus ont frappé fort ce week-end avec ce match face au Pays de Galles. Bon, certes, on sait très bien que le Pays de Galles joue toujours cette cuillère de bois, que ce soit en masculin ou féminin, hein, clairement, mais c'est des points à gratter avec bonus offensif ou défensif, tout ce qu'il faut. Hein. Il faut prendre parce que les Red Roses, elles sont là jusqu'au bout. Donc non, il faut maîtriser le match de bout en bout, et c'est ce qu'elles ont fait. Ça a été une performance qui a confirmé leur place dans le tournoi. Et le prochain rendez-vous, c'est ce week-end, le samedi 19 avril à 14h, avec les Italiennes. Il faut qu'elles le gagnent absolument. Après, les Italiennes ne m'ont pas fortement impressionné tout le long de ce tournoi. Elles sont quatrièmes au classement général. Pour moi, c'est une victoire assurée. Bien sûr, il faut la gagner, mais il faut l'assurer. Et après, je pense que tout le monde attend avec grand plaisir. Si je ne me trompe pas, ça sera en Angleterre, mais la finale Angleterre-France pour avoir le titre. Hein. Clairement, c'est à ce moment-là que tout va se jouer parce que je pense que l'Angleterre ne va rien lâcher et les Bleus doivent faire de même.
C'est ça, c'est que la France, là, prochain match, affronte les Italiennes qui sont à 5 points. Donc on voit vraiment, là on a le classement sous les yeux, on voit vraiment que deux équipes se détachent, il y a la France, l'Angleterre et les autres. Donc prochain rendez-vous, c'est contre l'Italie la semaine prochaine. Et le hasard du calendrier fait que vraiment la finale soit France-Angleterre, soit les deux premiers, soit le crunch finalement, le crunch tant attendu. Donc on verra bien. Peut-être petit avantage pour l'instant pour l'Angleterre qui.
Qui sont championnes en titre déjà ça. Et qui tiennent tout le tournoi. Elles sont impressionnantes, que ça soit physiquement, mentalement. Quel beau jeu de la part de ces Anglaises, mais les Françaises, elles nous montrent de belles choses. Il y a un vrai travail d'équipe. Donc moi, j'y crois et je pense que comme nos Bleus l'ont fait dernièrement, elles peuvent tout renverser au dernier moment et faire changer les clés de ce tournoi, je pense.
Du foot désormais et la Ligue des Champions. Tout d'abord, avant de passer à la Ligue 1, les quarts de finale retour se sont joués mardi et mercredi. On a eu quand même de belles surprises. On va juste réécouter avant les pronos peut-être de Maëlan et les miens pour voir un peu qu'est-ce que ça a donné, quels sont les résultats par rapport aux vrais résultats.
Inter se qualifie.
Inter se qualifie.
Ouais, Bayern ne m'a pas convaincu, même si je croyais en eux. Au début, je pense, je passe pour l'Inter. Je dirais quand même Real qui passe hein, avec un très gros match de leur part. Arsenal va avoir du mal à concrétiser. Donc, je dirais. Est-ce que je tente un petit 4-0
Donc peut-être un retour du Bayern, même s'ils sont à l'extérieur, peut-être un élan de motivation pour aller accrocher des demi-finales. Je vois le Bayern passer, je vois le Barça confirmer, pas avec un gros score, mais avec un but ou deux d'écart maximum. Et pour le PSG, je les vois se qualifier, parce que franchement, le match que j'ai vu hier soir, j'ai senti un engouement autour de cette équipe, un truc qui s'est créé, je sais pas, je l'avais pas ressenti les années d'avant, mais j'ai senti un truc qui s'est créé autour de cette équipe de Paris, un mélange d'expérience avec la défense. Et pas tout de juste pour l'instant, les pronostics, c'était pas ça.
Je me suis embrouillée sur quelques mots, c'était juste dans ma tête, j'ai non, juste pas très
pas
bien exprimé.
Il n'y a pas de soucis, donc Aston Villa qui va ne pas perdre, hein, vraiment encore une fois chez eux, ils ont gagné 3-2 face au PSG, ça ne suffit pas pour les Villains pour s'accrocher sa demi-finale de Ligue des Champions. Score cumule 4-5 des Parisiens qui se sont fait peur durant ce match. On a cru à une remontada, moi j'ai repensé à 2017.
Faut pas se nous rappeler ce moment tragique.
J'ai repensé à Manchester United, j'ai repensé à plein de moments quand j'ai vu les deux buts d'Aston Villa, mais bon, en tant que supporter parisienne, Maëlan.
Ce fut très dur, le cardio était à son comble jusqu'au bout, on attendait le coup de sifflet final, hein, clairement. Ça a été très dur, première mi-temps, ça m'a pas impressionné, même si certes il y a eu deux buts. En plus, à noter que c'est Hakimi et Mendes, quoi. Ils sortent pas de nulle part, ils font une saison impressionnante. Donc, bravo à eux. Mais comme à son habitude, Paris, je vais pas dire baisse les bras, mais se relâche énormément et pense que le match est joué. Parce que certes, il y a une belle avance, mais derrière, les Villains, à domicile, ils montrent qu'ils veulent tout donner, quoi. Ils veulent leur place en demi-finale et heureusement, je tiens à dire, moi qui ne suis pas grand fan de lui, Donnarumma a été décisif. Il a fait, je crois, 4-5 arrêts importants durant ce match. Encore une fois, après Liverpool, c'est à noter. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien les choix de nommer Dembélé homme du match. Je n'ai pas très bien compris.
Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, surtout que c'est deux défenseurs qui marquent. Donc, à la limite, ça aurait été plus judicieux de leur donner à eux ou alors un joueur d'Aston Villa, parce qu'ils ont quand même gagné le match. C'est vrai que Donnarumma, par rapport aux saisons passées, c'est vraiment taille patron. Il a fait vraiment des arrêts décisifs, parce que sans lui, sans sa grande taille, sans ses réflexes sur sa ligne, ça a joué sur ses points forts aussi. C'est sûr qu'il n'a pas trop été sollicité sur son jeu au pied, par exemple. Mais
heureusement.
C'est vrai. J'ai des flashbacks aussi qui reviennent du jeu au pied de Donnarumma. Mais il n'a pas trop été sollicité sur ses points faibles, donc ça, il a été beaucoup mis en valeur, et tant mieux. Tant mieux pour le PSG qui décroche cette quatrième demi-finale en 6 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est la deuxième sous l'ère de Luis Enrique déjà, donc on voit la patte du technicien espagnol. Deuxième match de mardi, c'était Dortmund-Barcelone, et quelle surprise, la victoire de Dortmund, mais qui ne se qualifie pas, score cumulé 5-3 pour les Blaugrana, donc des Blaugrana qui se sont fait peur avec un triplé de Guirassy. Quel homme Guirassy, il a été vraiment
impressionnant.
Et le Barça qui sauve un peu les meubles en mettant le...
Ils sont endormis, hein, clairement. Mais... Ils se sont dit 4-0 à l'aller, c'est plié, ils vont jamais revenir. Personne ne croyait aux Allemands, c'est clairement personne. Mais quel match, 3-1, homme du match mérité. Sincèrement, il a tout donné, 3 buts, décisif jusqu'au bout. Mais le Barça, il va falloir qu'ils prennent compte que c'est aller-retour. Hein. Moi, je crois en eux pour le titre. Mais est-ce qu'ils vont tenir la demi-finale aller-retour aussi ? À voir. Après, on sait très bien qu'ils ont les joueurs pour et qu'ils ont les buteurs pour, surtout.
Ben, les deux équipes qu'on voyait naturellement en finale, PSG et Barcelone, ce soir-là, ils n'ont pas donné les éléments pour confirmer leurs armes pour aller jusqu'en finale. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, PSG s'est fait peur, Barça s'est fait peur. Donc ça redistribue un peu les cartes. Surtout au niveau par exemple du match Bayern-Inter, donc l'Inter qui passe face au Bayern, et beaucoup maintenant voient l'Inter aller en finale et aller loin parce qu'ils proposent vraiment du beau jeu. Ils ont été solides face à un Bayern qui a été conquérant. C'est que le Bayern, ça attaque le Bayern, c'est...
j'ai cru au moins en prolongation, ça n'a pas été le cas. Bon, un peu déçu, j'aurais bien aimé avoir cette attente jusqu'au bout, ce suspense, mais l'Inter le mérite. L'Inter a été impressionnant, sincèrement, qui n'aime pas trop ce jeu. Vraiment, ça m'a... Je sais pas, j'ai bien aimé. À noter, bien sûr, le but de notre Français Benjamin Pavard, qui s'est permis de célébrer quand même pour son ancien club. Donc, on s'y attendait pas non plus. Mais très beau match des deux clubs, sincèrement, à noter. Félicitations à eux, même si la qualification en demi-finale pour l'Inter.
Donc, pour l'instant, les demi-finales, c'est Barcelone-Inter et PSG. Arsenal qui s'est imposé 2-1 au Bernabéu. Beaucoup de personnes ont cru à la remontada du Real. On sait que 90 minutes au Bernabéu, c'est très long.
Mais malheureusement... C'était inexistant.
Non, c'était catastrophique. C'est le copier-coller du match. Allez, finalement, où le Real a été, sur les 60 dernières minutes, le Real a été inexistant et a buté face à une défense d'Arsenal très solide. Hein, les 4 fantastiques devant. J'ai jamais dit que c'était une bonne idée. Voilà, on le voit maintenant, on le voit aussi en championnat. Arsenal qui était très solide, hein. Franchement, on les voyait pas arriver jusque là, et pourtant on avait été prévenus, hein, sur la phase de groupe, ils étaient dans le top 5. Donc ils viennent sortir l'étonnant du titre. Balan, une réaction?
J'y ai jamais cru. En fait, moi qui je voulais y croire pour le Real, parce que on sait que c'est un club qui peut tout refaire en un match. Là, au bout de 45 minutes, c'était fini. Il y avait tellement d'occasions qui n'ont jamais été cadrées. Il n'y avait pas de connexion. C'était, en fait, on voyait une équipe qui ne communiquait pas entre elles, qui n'y avait pas de lien. Et de l'autre côté, on avait Arsenal. C'était beau, c'était agressif, c'était défensif. Il y avait tout. C'était vraiment une belle connexion. Je n'ai pas compris le Real. Dans tous les cas, je ne comprends pas les choix de ce club. Hein. Clairement... Le mercato, je comprends pas, il y a trop de stars. C'est un grand mot, mais on peut pas mettre Vinicius, on peut pas mettre Mbappé ensemble, on peut pas mettre Bellingham ensemble. Il y a trop, il faut choisir, il faut faire des choix. On voit que par exemple le PSG, ils font des choix, c'est soit Doué, soit Barcola, ça dépend du match, de l'équipe qu'on a en face. Tout peut changer, mais il y a les choix. Là, il y a pas de choix. Et c'est à ce moment-là que Ancelotti, il faut le remettre en question. Pour moi, ça fait déjà 2 saisons que ça devrait être fini. Est-ce que c'est la dernière ? En tant que fan de foot, je l'espère. Parce que là, il faut du changement. Il faut du changement, même s'il y a de l'histoire, il faut du changement. Et c'est plus possible pour un club qui a un palmarès et une histoire comme ça. C'est impossible.
C'est sûr que on a l'impression de voir le PSG des dernières années aligner des stars et pas réussir à gagner. Chose que j'ai beaucoup critiquée, chose qui arrive maintenant au Real Madrid. Donc c'est sûr que chaque des 4 fantastiques, Chaque personne des 4 fantastiques prend trop de place sur le terrain, prend trop d'images, prend trop de tout. Donc ça peut pas fonctionner. Ancelotti, il a été remis en cause, peut-être même avant la fin de la saison. Qui pour le remplacer, on sait pas encore. On a pensé à un retour de Zidane, mais
ça va être compliqué.
On a pensé pour l'instant à son adjoint, son fils. Mais c'est pas encore non plus confirmé, donc il faut du renouvellement. Ça a été. De toute façon, Mbappé, ça n'a jamais été un choix d'Ancelotti, ça a été un choix pour Florentino Pérez.
On se demande si c'est le chat noir surtout, parce que chat noir au PSG, chat noir au Real, ça fait bizarre là. Mais clairement, déjà, il a dit au revoir au Ballon d'Or. Hein. Déjà, est-ce qu'il aurait pu ? Je ne pense pas. Mais une quelconque espérance, espoir, il n'y aura rien. Du coup, il finit blessé. Est-ce que ça va continuer pour la Liga, pour la Coupe du Roi ? Il n'y aura rien. C'est trop compliqué. Donc, il faut se remettre en question et vite. Et en tout cas, je pense que pour cette saison, ça va être compliqué. Mais pour la saison à venir, il faut se réveiller.
Il y a peut-être un espoir pour les Barcelonais que le Real vraiment ait une saison blanche sans titre. La Coupe du Roi, ils affrontent Barcelone en finale. On sait que Real-Barça, ces dernières années, le Real a très peur du Barça. En championnat, ils sont maintenant à 6 points et ils ont un match d'avance déjà sur le Barça, donc ça va être un peu compliqué. En Ligue des Champions, c'est mort. Donc une saison blanche avec l'arrivée d'Mbappé et les 4 fantastiques, on s'est dit ça va être une folie. Rien du tout, donc c'est l'heure peut-être d'un renouvellement au Real Madrid. Faut faire des choix, peut-être garder Mbappé, mais alors faire partir d'autres personnes, parce que c'est plus possible d'aligner autant de stars. C'est pas comme sur FIFA, quoi. Sur FIFA, tu fais ça, c'est nickel. Carrière manager, c'est nickel. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. C'est des êtres humains et c'est pas possible. Donc, on va revenir quand même. Demi-finale, Arsenal-PSG, le mardi 29 avril à 21h. Et l'autre demi-finale, Barcelone-Inter. Donc, je vois pas de finale prédéfinie parce que vu comment Arsenal a créé la surprise face au Real Madrid, peut-être la créer face au PSG. En plus, ils sont sur un match un peu de doute en Ligue des Champions face à une défaite face à Aston Villa. Et l'Inter qui propose un très beau jeu. Depuis, ils ne faisaient pas beaucoup parler d'eux, mais leur jeu parle pour eux finalement.
Ils ont avancé doucement, mais sûrement.
L'inverse du Real. Donc pas de finale prédéfinie. Finalement, ça peut être autant Arsenal-Inter, Barcelone-PSG, on ne saura pas. Donc là, il faudra se brancher, il faudra être là mardi soir et mercredi soir, ne prévoyez rien, il n'y a pas de dîner avec votre copine, il n'y a rien du tout. C'est match, et il faut voir ces demi-finales de Ligue des Champions. Bon, on a passé un peu de temps sur la Ligue des Champions, on va passer un peu plus rapidement au TFC qui a perdu. On commence à avoir l'habitude de 1 face à Lille, un but de Charlie Cresswell à la 42e n'a pas suffi face aux 2 buts de Mathias Fernandez Pardo et Michel Bakker. Sur coup franc, un TFC, encore une fois, en manque de réalisme face à la cage. On a un nombre de tirs cadrés incalculable, un nombre de poteaux incalculable, un nombre de buts, il est calculable celui-là, un seul. Hein. C'est assez médiocre pour une équipe qui prétendait jouer l'Europe en début de saison, pour un président qui disait viser l'Europa League de manière un peu plus légitime en se qualifiant directement pour les 5e et 6e places. Donc on ne voit pas ce projet... Du TFC annoncé en début de saison s'aboutir en cette fin de saison. Ils sont même ils sont plus proches de la zone de relégation que de la zone européenne, donc ça fait peur. Bon, on se maintiendra bien évidemment parce que normalement les prochains rendez-vous sont assez abordables, comme Reims à l'extérieur. On sait que Toulouse à l'extérieur a un peu plus de facilité. Donc on verra bien. Reims aussi qui est sur une moins bonne dynamique, mais nous on est sur 5 matchs sans victoire pour les hommes de Carles Martinez Novel. Donc à voir pour Toulouse qui doit vraiment se relancer et pas se faire peur en fin de saison. Il faut vraiment avoir l'esprit libre, jouer libéré. On ne joue pas la Coupe d'Europe et il faut espérer juste qu'on ne joue pas la relégation. Ça va, on a assez parlé de foot, on va parler un peu de sport automobile. On va parler de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn qui s'est déroulé. Le week-end dernier, victoire d'Auxerre Piastri devant George Russell et Lando Norris, 3e, Charles Leclerc, médaille au chocolat, 4e. Un Grand Prix où ça a un peu bougé par rapport au week-end d'avant, c'est sûr, George Russell qui a pris une place, c'est Leclerc qui fait sa mauvaise performance et qui perd 2 places par rapport à sa pole position. A noter, Birman par dernier arrive 10e dans les points. Des points pour As, ça fait plaisir. Maëlan, t'as vu le Grand Prix ?
Piastri, hein, je pense que là, il nous montre qu'il peut tenter le titre. Hein. Le titre, ça va être dur pour cette année. Mais en tout cas, les premières places, moi, j'y crois. Et Ben, il m'impressionne de sérénité. Bon, il n'est pas très expressif, donc c'est compliqué à lire en lui, mais non, sincèrement, ben, il était devant tout le long, il a tout géré, même avec une safety car, donc c'est un très bon GP de la part de l'Australien. Après, Russell, que dire, sincèrement, il m'impressionne d'année en année. Avec la défaillance de sa monoplace tout le long de ce Grand Prix, ça a été dur, il nous a fait peur. On s'est dit, est-ce que Norris peut le rattraper? Parce qu'à un moment, ben, on peut plus, il ne pouvait même plus contrôler sa voiture.
Non, on voit l'écart, hein. il n'y a même pas une seconde entre les deux. Donc c'était très serré, surtout que la McLaren est censée survoler les débats en termes de vitesse, en termes d'appui dans les virages, dans les lignes droites, c'est eux les plus rapides partout. Donc George Russell, le taille patron finalement, devant, en remplaçant on va dire Lewis Hamilton, il pourra pas remplacer Lewis Hamilton, mais il fait le job qu'on lui demande. Pierre Gasly, Esteban Ocon, 7-8e, très très bien.
Premier point d'Alpine, à noter, toutes les écuries ont des points cette saison.
C'est très rare parce qu'il y a quelques années on savait que des Haas, des Williams pouvaient pointer à 0 points à la fin de la saison. Donc c'est bien, les deux Haas dans les points, c'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Verstappen qui gagne une place, parti 7e, finit 6e à cause de la safety car, il a fait une bonne remontée. Mais c'est sûr que c'est bien qu'elle ait rebattu les cartes, cette safety car. Conséquence, au classement général, Oscar Piastri passe second, juste derrière Lando Norris qui a réussi à accrocher cette 3e place et donc qui réussit à accrocher cette première place au classement général. Max Verstappen donc passe 3e, c'est George Russell aussi qui confirme sa 4e place devant Charles Leclerc et Kimi Antonelli, 6e et Lewis Hamilton, top 7. La mythique épreuve de cyclisme de l'année Paris-Roubaix, ces fameux pavés, c'est terminé donc cette semaine avec, chez les hommes, Mathieu Van Der Poel qui a réussi à dompter ces fameux pavés juste devant Tadej Pogacar, Mats Pedersen et Wout Van Aert. Donc c'était gros nom du cyclisme qui complète ce top 4. On peut peut-être les voir aussi, ça peut être voir un état de forme pour le Tour de France qui va se dérouler cet été. Donc Mathieu Van Der Poel, 1 minute 18 plus rapide que Tadej Pogacar sur ses pavés. Maëlan, Pauline Ferrand-Prévot, une Française qui gagne Paris-Roubaix, ça fait toujours plaisir.
Enfin, une Française. Après, ça fait que 5 éditions qu'il existe Paris-Roubaix pour les femmes. À noter que c'est quand même 5 nationalités différentes à chaque fois. Et la Française a été impressionnante. Je pense que là, c'est l'expérience qui a joué parce qu'il faut noter qu'elle a quand même gagné sur route. Elle est championne olympique sur VTT cross-country. Elle sait tout dompter, la Française. Elle sait tout faire. Donc là, 10 ans après sa dernière victoire, sur route, si je me trompe, elle nous a impressionnés. Après une chute au 53e kilomètre, elle revient petit à petit. Et 25e kilomètre, elle attaque. Lotte Kopecky, la championne du monde, aurait dû la suivre, elle aurait dû se mettre dans sa roue. On ne peut pas laisser partir Pauline Ferrand-Prévot toute seule. Et après, elle avait juste à assurer. Les pavés, ça ne lui fait pas peur. On ne pensait pas que pour une première fois, pour Pauline Ferrand-Prévot, elle aurait dompté l'enfer du Nord. Elle l'a fait. Donc je pense que, comme tout Français et Française et fan de cyclisme, on croise les doigts pour la voir sur le Tour de France et peut-être tenter au moins le podium. Moi, je pense qu'on peut compter sur elle, pardon. Elle est impressionnante.
Pour finir, comme d'habitude, on termine sur un mot des performances du Phoenix du handball. Donc, défaite sans appel des Toulousains face à l'Ogre parisien 36-15, où le Phoenix n'a tout simplement pas vu le jour. Quelques espoirs en début de première mi-temps, mais après le Paris Saint-Germain a fait le boulot finalement, a respecté sa place de leader, la hiérarchie a aussi été respectée. Dans le championnat de handball, donc c'est Nîmes qui fait la bonne opération en profitant de la défaite des Toulousains pour passer 5e. Nîmes qui a gagné face à Tremblay de justesse, hein, vraiment 26-25 d'un point, mais qui fait la bonne opération, donc 27 points pour Nîmes, 26 pour Toulouse dans ce classement de première division de handball. Prochain match du Phoenix, c'est face à Istres, 12e du championnat, donc victoire obligatoire pour se relancer dans la course à l'Europe finalement. On sait que c'est un objectif affiché des handballeurs toulousains d'accrocher l'Europe. Quant à eux, Nîmes affrontera donc Nantes second. On rappelle que Toulouse a affronté successivement le deuxième et le premier de ce championnat, donc les deux défaites d'affilée, elles peuvent être négligeables dans la course à l'Europe. Donc on espère une défaite de Nîmes face à Nantes, qui est sur une série de victoires consécutives, pour espérer repasser devant les Gardois. L'émission touche à sa fin. Merci Maëlan, en tout cas, d'avoir participé.
Merci à toi.
On a eu beaucoup de choses à dire, surtout sur le foot. On continuera de suivre bien évidemment le foot et la Ligue 1 qui va reprendre aussi ce week-end. La semaine prochaine aussi, on se retrouvera pour du rugby, pour du top 14, pour aussi le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah aussi, qui est ce circuit magnifique, franchement, que je trouve magnifique comme circuit. Donc on ira aussi à Jeddah pour cette cinquième manche de la saison 2025 de Formule 1. On verra si McLaren continue sa lancée, ou alors si une équipe ou un pilote va venir les titiller. L'ATP de Barcelone aussi se joue cette semaine, donc on ira faire un petit débrief et passer par l'Espagne. Et nous finirons bien évidemment sur un mot des Phoenix la semaine prochaine, comme d'habitude, pour finir l'émission. Donc c'est un plaisir de faire l'émission, et nous on vous dit à la semaine prochaine.